Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour Asa.
Salut Ben.
Bonjour à tous ceux qui êtes tranquillement chez vous. C'est l'épisode 319 de ce merveilleux podcast, le meilleur podcast de la galaxie. Nous sommes le lundi 8 avril 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, deux bonnes grosses semaines, puisque on a fait une semaine sans épisode pour des raisons qui seront apparente. On a fait une semaine de pause.
Ouais, pas que pour ça.
On a fait une semaine de pause.
Moi, j'étais bien fatigué.
On avait vraiment un week-end compliqué le week-end dernier. De temps en temps, on a besoin de respirer.
Et donc, c'est rajouté des événements dont on va vous parler. Donc,
Voilà, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Asa et moi-même, Ben, on est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où on peut trouver des podcasts, on stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode, mais surtout vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et vous pouvez nous soutenir sur Patreon via l'adresse patreon.com/labellegamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. On a fait une petite pause, on a eu une semaine chargée, on a eu quelques jours difficiles. On a un épisode qui arrive là à peu près normal avec les jeux auxquels on a joué cette semaine, pas grand chose, l'actu comme d'habitude. Mais on va préfacer quand même par un petit mot, une petite explication de ce qui se passe en ce moment. Depuis maintenant une dizaine de jours, en cherchant bien sur Internet, il y a une campagne de harcèlement qui s'est organisée spécifiquement contre moi, mais également contre IGN France et IGN globalement, hein, parce que tout le monde s'est un petit peu pris dans le truc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a une dizaine de jours, j'ai écrit pour IGN une preview du jeu Stellar Blade, dans laquelle une preview plutôt positive globalement
sur le jeu,
parce que faut dire ce qui est, c'est un jeu qui a l'air très cool. Maintenant aussi dans cette preview j'ai donné mon avis sur le design du personnage principal, que je reprends les mots qui sont écrits dans cette preview que j'ai trouvé fade. L'avis, on l'a donné. On avait aussi fait la semaine dernière.
On en avait parlé aussi dans le podcast.
Ouais, on en avait parlé dans le podcast.
Le personnage est un peu trop sexualisé pour notre goût, quoi.
Alors, c'est pas la question. C'est pas trop sexualisé. C'est plutôt même. Je trouve que c'est raté. Je trouve que c'est pas intéressant.
Ah non. Voilà. Ça, c'est clairement pas intéressant. C'est sûr.
Bon, faut reconnaître aussi ce que j'ai fait faux dans cette preview. J'ai utilisé des phrases un petit qui ont dépassé les bornes. Hein. Les mots qui ont été employés ont pu être interprétés comme prises comme une insulte envers le studio. Alors tout. Si tu crois Internet, tout le monde y est passé. Hein. C'est le studio, le créateur du jeu, la personne qui a designé le personnage, l'actrice qui a servi de design du personnage, la femme du créateur du jeu, toutes les femmes asiatiques de manière générale, la Corée dans son ensemble. Bref, incident diplomatique. Hein. Voilà. Alors.
Oui, mais bon, ça c'est clairement
une
élucubration des gens qui avaient besoin de harceler, quoi.
La tournure de phrase a dépassé les bornes, surtout pour la ligne éditoriale d'IGN. C'est pas le genre de chose qui doit être lu sur un site comme IGN, IGN France ou IGN tout court. C'est vrai que c'est le ton que nous on a dans ce podcast. De temps en temps, mm-hmm. C'est vrai que on a le ton que les auditeurs connaissent. Hein. C'est parfois on va trop loin, mais un petit peu exprès, un petit peu à mi-chemin entre l'humoristique et la provoque. Voilà, c'est un ton qu'on va qualifier de marseillais, on va dire. et qui est marrante et qui parfois fâche des gens, mais voilà, si c'est sûr que tu peux, et ça je le reconnais, c'est faux, c'est pas bon.
Est-ce que tu peux relire l'entièreté du passage qui les choque?
Non, il n'existe plus. Il a été édité sur IGN. J'ai plus le texte, je l'ai pas là sous les yeux.
Ouais.
Mais non, on va pas répéter les mots qui ont été problématiques parce qu'ils sont problématiques. Je le reconnais. Voilà, c'est pas des choses qu'on dit sur des gens. Mais
oui, mais bon, mais l'idée c'est derrière, une phrase qui était problématique et tout le reste a été gardé. Hein.
Voilà, c'est ça.
C'était une tournure de sentiment... phrase qui allait un petit peu trop loin, comme dit dans l'esprit marseillais, quoi.
Surtout dans un contexte où c'est des gens qui vont prendre cette phrase, qui vont la traduire via Google Traduction, des trucs comme ça, tu vois, ça va perdre son sens, ça va perdre son contexte.
Voilà, c'est ça. Mais après, en dehors de ça, qui n'était pas du tout le cœur du sujet quand même, en dehors de ça, toutes les phrases que tu as employées ont été gardées.
Si tu veux, ce que ça veut dire, c'est que on a un personnage, le design de ce personnage, ils en ont fait la promo, hein, c'est un des arguments marketing du jeu, c'est qu'ils ont pris ils ont pris un mannequin, une mannequin instagrammeuse, influenceuse, je sais pas exactement, hein, bref, ils ont pris une vraie personne pour servir de base de modèle, une personne qu'ils ont scanné avec l'appareil pour aspirer les âmes de Hideo Kojima, là, même. Et voilà, ils l'ont complètement scanné de la tête aux pieds. Alors son visage ne ressemble pas, c'est normal, ils le disent. Le visage, c'est une création du studio. C'est une création. Ils ont créé le personnage. Par contre, son corps, c'est un scan de cette personne. C'est le résultat. Le résultat n'est pas. C'est pas ça. Le corps est très différent de cette fille. Hein. Cette fille. Voilà. Allez voir son Instagram. On va pas se mentir. C'est une fille qui est incroyablement belle. Il y a aucun problème là-dessus. Mais le résultat a été modifié, a été
différent
pour des raisons de gameplay, pour des raisons de style, pour des raisons de voilà, parce que il y a des modifications qui sont faites sur sa morphologie qui avait pas besoin de faire, mais qui ont été faites pour donner un style un petit peu exagéré, parce que le style visuel de Stellar Blade, c'est un style un petit peu, on est à mi-chemin entre le réaliste et un petit peu des influences d'animé.
Bien sûr, oui.
Et donc forcément il faut des proportions, donc forcément il y a eu une modification. C'est en tout cas quand tu mets les deux côte à côte, c'est ça qu'on voit.
Si je peux me permettre, un des principaux arguments des harceleurs, c'était justement que cette fille avait été utilisée, le corps de cette fille avait été utilisé pour le corps du personnage, et ils comparaient donc les deux photos de la fille et du personnage à côté.
Et c'est pas la même personne. C'est pas
la même personne et leur argumentaire, c'était « Mais regarde, c'est la même !» Mais non, non, ils ont clairement pris cette fille.
Ils ont pris cette...
Parce que quand, comme c'est à la troisième personne, il faut bien que tu aies son cul en avant, hein, parce que c'est ça que tu vois en permanence. Et voilà, donc c'est malheureux de justement utiliser un corps humain féminin pour faire ça et le modifier pour en faire quelque chose qui n'est pas naturel, en fait.
Complètement.
Donc, c'est dommage de faire la promo de ça en disant on a utilisé cette fille pour faire le personnage. Et en fait, non, c'est fou.
Finalement,
s'en
éloignait tellement.
Voilà.
Après, voilà, des designs un petit peu sexualisés qui mettent ces trucs-là en avant. Le studio Shift Up, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Avant ça, ils ont leur jeu mobile Goddess of Victory. C'est un truc
tu m'as montré.
Ça a énormément de succès. Il y a des millions et des millions de joueurs. Mais le principe, alors c'est un style visuel qui est complètement animé. C'est dessiné, ça a rien à voir. Hein.
Oui.
Mais voilà, ça, on va dire que c'est un jeu qui met l'accent sur les attributs féminins. Et pourquoi pas, tu vois, tu fais des jeux comme ça, tu as un public pour ça et des gens qui cherchent ça, c'est ok.
Enfin, pourquoi pas, non, moi je suis pas d'accord sur le pourquoi pas, je pense que quand même il faut faire évoluer la société dans le bon sens.
Alors,
et peut-être éviter d'aller trop loin dans ce genre de...
Ouais.
D'aller trop loin, voilà.
Alors, Oui et non, dans le sens où, où il existe tous les types de jeux, tu vois. Mm-hmm. Et le but, ça va jamais être de faire interdire des trucs. S'il y a des jeux qui ont leur public... Et puis
non,
qui...
mais interdire, non, tant que c'est légal.
Voilà, c'est ça. C'est, voilà, il y a des jeux de tout type, mais il faut quand même avoir une variété dans la proposition. Moi, personnellement, et je crois que tu me rejoins aussi, on a jamais eu vraiment de problème sur des personnages qui sont... des personnages féminins ou masculins qui sont sexy, qui sont sexualisés quand c'est fait correctement.
Généralement, c'est quand même beaucoup plus souvent féminin que masculin.
Hein,
on est d'accord. Mais oui, non, après, des personnages sexy, il n'y a aucun problème, quoi.
Voilà, on en est à 80 heures de Final Fantasy VII avec Tifa qui a des proportions et qui a un physique qui est vachement mis en avant.
C'est vrai.
Et on reprend d'un historique des personnages comme Bayonetta qui sont représentés de façon très différente, même si ses attributs et sa sexualité sont vachement mis en avant, il y a un ton, il y a un second degré, il y a quelque chose qui fait que le résultat est plus intéressant. Même chose pour des personnages comme To Be de Nier Automata ou des choses comme ça, le résultat est plus intéressant.
Là, effectivement, en fait, le deuxième problème qu'il y a, alors après, peut-être que ça va évoluer au fil du jeu, je ne sais pas. Mais dans la démo qu'on a faite et la démo qui est disponible, hein, c'est ça ? Je dis pas de conneries. Le personnage, elle est débile. Je suis désolée.
Alors ?
Pour l'instant, on en a parlé dans l'épisode précédent, c'est un robot qui comprend rien et qui...
Alors, scénaristiquement, c'est pas clair, est-ce qu'ils sont humains, est-ce qu'ils sont robots, je vois les deux dans tous les sens, mais...
D'accord, bon, en tout cas, pour l'instant, là, elle comprend rien à la vie et elle débarque de sa conception, hein. Et elle se fait mansplainer la vie par un personnage qu'elle rencontre, voilà. Masculin.
Alors...
Donc, ça aussi... Je trouve que c'est un problème. Alors, j'espère que ça va évoluer.
Ça va évoluer dans le sens où, si tu veux, scénaristiquement, et j'ai eu l'explication, c'est que apparemment, c'est un personnage qui vient d'être, entre guillemets, activé et qui découvre, donc, littéralement, qui découvre la vie.
Oui.
Et qui, voilà, et qui va...
En fait, tout mis ensemble, le premier abord du personnage et de l'esprit du jeu, ça correspond pas à ce qu'on aimerait avoir, en tout cas, dans l'évolution de la société et du jeu vidéo de nos jours.
Ouais.
Voilà.
Complètement. Et si tu veux, c'est pas parce qu'il y a une explication scénaristique que ça en fait quelque chose de...
Ouais, ça n'arrange pas. Quoi.
Oui, il y a des scénarios pour tout, mais parfois il y a des scénarios qui sont bof. Et ça rejoint des personnages...
C'était comme la fille qui était à poil là, dans le truc de Kojima.
Ouais, Metal Gear Solid 5, tu avais Quiet qui était un sniper qui vivait en bikini. donc là aussi, on avait un personnage qui était hyper sexualisé. Et Kojima se disait, oui, mais quand vous saurez les raisons pour lesquelles on a été obligé de faire ça, vous allez regretter vos critiques. Et la raison, c'est que scénaristiquement, elle a un problème physique qui fait qu'elle respire par les pores de sa peau, donc si elle porte des vêtements, elle suffoque.
C'est con, hein ?
Ok, d'accord. Ouais, c'est une...
Super explication, c'est trop bien.
C'est une explication,
merci.
Très bien. bravo. Ok,
donc... ça tombe bien que ça soit une jolie fille avec des jolies formes, hein, qui respire par la peau, quoi.
Exactement.
Ça serait dommage que ce soit un gros barbu.
Exactement. Mais pour la défense de notre ami Hideo Kojima, l'actrice qui avait été scannée pour Metal Gear Solid 5,
c'était la
hollandaise.
C'est réaliste.
Ouais, c'était Stéphanie Justen qui là, oui, non, il y avait une ressemblance. C'était elle. C'était elle. C'est notre avis sur le jeu, sinon en dehors de ça, on l'a déjà donné, basé sur la démo, on n'a pas eu le jeu final en main, évidemment.
On ne l'aura pas, je pense.
Ou on ne le veut pas.
On ne le veut pas, pardon.
Non, voilà, l'avis sur le jeu, parce qu'on est là quand même pour jouer à des jeux vidéo, il y a du gameplay, il y a du truc, et c'est Stellar Blade, un jeu qui s'annonce extrêmement solide comme jeu. Mmh. Ça a l'air vraiment, vraiment cool, avec des idées intéressantes. Il y a un gameplay qui est cool. Maintenant, voilà, on a dit ce qu'on avait à dire sur le jeu. Je pense que c'est tout. Hein. J'ai pas spécialement envie d'en parler plus. Donc, c'est aujourd'hui la dernière fois que vous allez entendre notre avis sur le jeu. Voilà, c'est un jeu qui va sortir, il va faire sa vie, et puis très bien, et il y a plein d'autres jeux, quoi.
Oui, on va pas le couvrir plus que ça, quoi. Hein,
non, voilà. Non. Après, c'est intéressant de remettre ça dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe au sens large, hein. C'est pas quelque chose qui est centré sur ce jeu en particulier et sur cette histoire. C'est ce qui se passe, c'est une résurgence en fait d'un phénomène qui a 10 ans maintenant presque, qui date de l'été 2014. C'est ce qui s'appelait à l'époque le Gamergate.
Oui.
On va faire un petit historique du truc, hein. Donc ça date de l'été 2014. Ça, globalement, c'était très très actif en 2014, en 2015. Mm-hmm. Ça a duré un petit moment. Et c'était à l'époque une campagne de harcèlement globalement surtout très très misogyne, antiféministe, qui luttait voilà vraiment contre le féminisme au sens large, contre la diversité, contre le progressisme dans la culture des jeux vidéo. C'est une campagne qui a visé principalement de nombreuses femmes dans l'industrie du jeu vidéo. De manière notable, ça a été des développeurs de jeux vidéo, Zoe Quinn, Brianna Wu, une critique, une membre du média qui s'appelait Anita Sarkeesian, et qui ont été harcelées. Ça a commencé, si tu veux, l'histoire avait commencé par Zoe Quinn. Zoe Quinn qui avait fait un jeu vidéo, un tout petit jeu vidéo. Hein. Zoe, c'était indépendant complètement, hein, mm-hmm. qui avait fait un petit jeu toute seule dans son coin, mm-hmm. Qui s'appelait Depression Quest. C'était un jeu orienté texte qui parlait de la dépression de manière générale, okay, ouais. Et de son expérience à elle, mm-hmm. sur la dépression. C'est un jeu qui a eu pas mal de retours très positifs, hein, parce que c'était un jeu intéressant. Mais également, c'est parti d'un post sur Internet par son ex-compagnon qui avait accusé Zoe Quinn de l'avoir trompé et d'avoir échangé des bonnes critiques du jeu contre des faveurs sexuelles.
Quoi ?
Auprès de John. Oui, non, c'est... Voilà. Donc ça, c'était...
Mais quel trou du cul, celui-là !
C'était l'accusation à la base. Okay. C'est une accusation qui... alors, comme souvent dans ces cas-là, la différence entre la vérité et la fabulation n'est pas importante, parce que ce n'est pas ce que les gens retiennent.
Non.
Mais le fait est que pas vrai, on ne va pas se permettre de juger, mais juste pas possible, en fait, puisque... la personne, le journaliste en question qui...
C'était un journaliste, son ex ?
Non. L'accusait d'avoir eu des relations avec un journaliste.
Ah, d'accord.
Mais c'est un journaliste qui n'a jamais fait de critique du jeu, en fait.
Ah oui, donc du coup, ça tombe à l'eau, quoi.
Donc ça avait peu de sens, hein. Y a le seul article dans lequel il avait mentionné ce jeu-là, datait de bien avant, et surtout bien avant la relation de cet ex avec Zoe Quinn. Donc ça,
quand même, tout ce que je tiens à dire, c'est
pas,
que...
Ça n'avait pas de sens. Et ce mec, cet ex, a finalement admis qu'il n'avait aucune preuve de ce qu'il avançait.
On comprend pourquoi elle a fait un jeu sur la dépression, cette pauvre fille, quand même.
Ouais, elle n'est pas...
Voilà, pas été aidée, quoi.
Voilà, donc après ça a été des campagnes de harcèlement contre elle, contre tous les gens qui ont osé prendre sa défense, et c'est des campagnes de harcèlement qui ont culminé sur des menaces de mort, sur des menaces de viol, et qui l'a forcé complètement à déménager, à changer de vie pour disparaître, parce que c'était quelque chose qui dans sa vie était complètement devenu ingérable. Mm-hmm. Bon, ça a été la même chose pour pas mal de gens à l'époque.
Mais, ouais... Non, je comprends pas ce qui les déclenche, en fait.
C'est
quoi qui a déclenché le harcèlement, que... Parce qu'ils pensaient que l'ex-petite amie disait la vérité, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. Et qu'il y avait un problème de transparence et de professionnalisme dans le journalisme jeu vidéo.
Ouais, voilà. En fait, ce qui est intéressant dans ce genre de cas est... on va dire dans le harcèlement et les campagnes de désinformation, en fait, en général, c'est qu'ils vont se servir d'une info et ils vont la tourner pour que ça aille dans leur sens, en fait. Parce que là, ils se posent en défenseurs de l'intégrité journalistique et du machin, etc. Alors que c'est complètement le contraire. Mmh. Mais ils donnent au public une image de défenseur de quelque chose, en fait. Voilà. Et ça... on voit dans toutes les campagnes de harcèlement ou de désinformation, on en reste là. C'est exactement le même principe que ce qui se passe par rapport à toi qui va critiquer le design du personnage de Stellar Blade. Mm-hmm. Ils vont essayer de dire, mais regarde, ce journaliste attaque les femmes coréennes.
Alors ouais, te fait dire des choses que t'as pas dit.
Voilà, il modifie les choses pour que ça aille dans un sens qui leur est favorable. Alors que ce qu'ils prônent et ce qu'ils mettent en avant, c'est quelque chose qui ne devrait pas être mis en avant. Et donc, ils essayent de, de justifier d'être des bonnes personnes en modifiant la réalité.
C'est ça. Donc ça, c'était tout, ça fait pas mal de bruit à l'époque, hein, ça fait déjà une dizaine d'années, le temps passe vite. Hein, mais
voilà. Enfin bon, après, sur le long terme, je suis pas sûre que ça ait fonctionné leur truc quand même, hein, parce qu'on a eu quand même une évolution plutôt positive.
Il y a une évolution positive, tout à fait. Voilà. Et c'est aussi un petit peu pour ça que c'est un phénomène qui a une résurgence aujourd'hui, puisque il y a...
Dernier souffle avant la mort.
Je sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a c'est toujours un mouvement qui est organisé, c'est toujours un mouvement qui est tourné autour de certains forums, autour de certains comptes Twitter qui servent de point de ralliement à ce type de campagne. Hein. Et aujourd'hui, la cible de ces organisations là, c'est une des grosses cibles. Les cibles, c'est tout ce qui va être un petit peu féministe, un petit peu progressiste, un petit peu inclusif. Ça, c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose.
Donc, on peut considérer
que... Et ils vont butiner d'un sujet à l'autre.
Quand même,
que
ce sont finalement des organisations d'extrême droite. Qui prônent en tout cas des idées d'extrême droite.
Complètement. Et qui... C'est ce qu'ils cherchent. Donc, si tu veux... Ils vont butiner d'un sujet à l'autre. Hein. C'est, je veux dire, un coup, ils s'attaquent à cet article sur lequel j'ai bossé. Un coup, ils vont attaquer autre chose. Là, leur dernière cible, ça va être Helldivers 2.
Pourquoi ?
Alors, Helldivers 2, parce qu'ils étaient tous à fond sur Helldivers 2. Hein. Enfin, un jeu...
Mais ils n'avaient pas compris que c'était du second degré ?
Voilà. Enfin, un jeu qui ne mélange pas d'idéologie politique avec le jeu vidéo.
Raté.
C'est à mourir de rire.
Ratez, les gens. Voilà. Achetez-vous un cerveau.
Voilà. Mais ils se sont rendus compte soudainement pendant le week-end que l'équipe communautaire de Helldivers 2 était plutôt activiste dans tout ce qui est inclusion, les causes LGBT, ce genre de choses. Mm-hmm. Donc du coup, ça les a fâchés, leur a menti.
Vous avez menti. Ils n'avaient pas compris le second degré de Helldivers.
Non, c'est ça. Et donc c'est un mouvement qui a une résurgence aujourd'hui à cause d'un... Parce qu'ils ont découvert l'existence d'un studio de... Pas de développement, mais c'est des consultants dans le jeu vidéo. C'est un studio qui s'appelle Sweet Baby Inc. C'est des Canadiens, c'est des anciens développeurs d'Ubisoft qui ont monté un studio un cabinet de consultants, en fait, que parfois, si tu veux, quand tu fais un gros jeu vidéo, tu peux engager leur service et ils viennent faire une passe sur ton jeu, sur son scénario, sur son univers, sur son contexte, pour t'aider à rendre le jeu, justement, inclusif, positif, ce genre de choses. Et donc, qui va t'aider à esquiver des faux pas voilà. C'est plutôt une initiative positive. C'est des gens qui ont travaillé sur des jeux comme God of War Ragnarok, sur Alan Wake 2, sur le dernier Spider-Man. C'est assez standard dans un gros projet de jeu vidéo de les faire travailler.
Évidemment, ça leur plaît pas.
Et ça leur plaît pas parce que c'est à cause d'eux uniquement, ces petits salopards que on se retrouve avec des protagonistes de couleur, des protagonistes
féminin, mais habillé, quoi.
Voilà, c'est ça. Et qui répondent pas forcément à des critères de beauté. En tout cas, c'est pas leur caractéristique principale. Mm-hmm. Et donc ça va à l'encontre de ce qu'ils recherchent.
Moi, tout ce que je vois, c'est que malgré toutes les campagnes de harcèlement qu'ils ont faites au fil des années, l'évolution de la façon de faire les jeux vidéo et des thèmes abordés dans les jeux vidéo, ça va dans le, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire l'inclusion.
Globalement, c'est plutôt positif.
Voilà, globalement, c'est plutôt positif.
Écoute, je suis assez d'accord. C'est compliqué. En tout cas, voilà en gros ce qu'on avait à dire sur le sujet. Mmh. On va limiter notre discussion sur ce sujet à ce segment. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire.
Tout à fait.
C'est un petit peu dommage. Moi de mon côté, tous mes réseaux sociaux sont verrouillés pour l'instant. Ils vont le rester pendant un petit moment parce que j'ai pas que ça à foutre. principalement.
Non, on va voir si cet épisode déclenche une déferlante de harcèlement sur la Belle Gamer. Auquel cas, on essaiera de couper aussi les réseaux. Mais voilà. Enfin voilà, on se défend comme on peut. Et un bisou à tous ceux qui soutiennent Ben et IGN dans cette épreuve. Et,
c'est ça.
Et les autres,
Tant pis. Tant pis pour les autres.
Non, mais après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les gens qui font ça, c'est des gens qui... Et je suis désolée pour eux parce que... C'est des gens qui sont malheureux dans leur vie. Quand tout ce que tu as dans ta vie, c'est d'aller harceler des gens sur Twitter, c'est malheureux pour eux. Et il faudrait qu'ils mettent leur énergie dans autre chose. Et voilà. Donc, pour le message, on va dire, c'est pour tous ceux qui sont harcelés et qui sont victimes de harcèlement dans leur vie. Ceux qui vous harcèlent, ils sont encore plus malheureux que vous. C'est con. Mais c'est vrai. Donc dites-vous ça, ça rassure toujours. Voilà.
C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Aza, nous allons reprendre le cours normal
Tout
de cet
fait.
Épisode avec les jeux auxquels on a joué cette semaine.
Ça y est, on peut insulter les gens de nouveau ?
Ça dépend qui.
Tu sais très bien qui, en premier lieu. Alors j'ai un Death Note et je sais m'en servir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
On a dû rajouter des pages.
Oui, là pour le coup. Là pour le coup, c'est plus un Death Note, c'est un Death.
Avec toute cette histoire.
Un Death Boutin.
C'est l'annuaire.
C'est l'annuaire de. L'annuaire de la mort.
Oui. Non, avec toute cette histoire, on n'a pas joué à grand-chose. Alors, avec toute cette histoire et du fait qu'il n'y a rien qui sort aussi. Alors, c'est marrant, pendant des mois, on se plaint qu'il y a trop de jeux qui sortent, et puis soudain, il n'y a plus rien qui sort, c'est quoi ces conneries ?
Non, mais ça va. Comme vous savez, en ce moment, on est plutôt occupé dans notre vie personnelle, donc, s'il n'y a rien qui sort, c'est pas plus mal.
Ouais, on n'a pas forcément le temps qu'il faut pour jouer. Mais voilà, qu'est-ce que ça a été cette semaine ? Ces deux dernières semaines, ça a été énormément de Final Fantasy VII Rebirth. Alors, figure-toi qu'il est long comme jeu.
Il est long, et là, je crois qu'on en est au moment où il est long.
Hein, ouais, il est long. C'est-à-dire que...
Il commence à vraiment être long.
Mais bien, attention. Hein,
bien,
cool,
mais quand même un peu trop de mini-jeux. Hein.
C'est ça. En fait, la structure du jeu, t'as le scénario que tu connais, et en fait, tu passes de zone en zone, et c'est des zones très, très ouvertes, où il y a pas mal d'activités d'exploration qui se répètent un petit peu, mais avec quand même pas mal de variété, puisque à chaque fois, chaque zone va introduire les choses vont être présentées un petit peu différemment, voilà, l'exploration, les chocobos, ils font pas exactement la même chose dans chaque zone, ça rajoute un petit peu de fraîcheur, et ça complique un petit peu les zones, mais à chaque fois, c'est des nouveaux mini-jeux, c'est des nouveaux trucs, donc il y a pas mal de variétés. Ça, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il y a énormément de variétés. Mais c'est vrai que nous, sur une façon de jouer à ce genre de jeu, on aime bien tout faire à 100% et progresser quand tout est bouclé. Ça fait beaucoup à boucler. Ça fait pas mal de mini-jeux. Ça fait pas mal de trucs optionnels.
Ouais,
et parfois, les mini-jeux sont... Ah, ouais, c'est mignon, c'est sympa. J'ai compris le principe, mais on passe à la suite.
C'est un peu... on est à combien ? La cinquième zone sur 6 ?
On a quasiment à 90%. 99% terminé la cinquième zone sur, d'après ce que je comprends, 6. Mm-hmm. Donc on a...
Là, moi j'en suis au moment où, bon voilà, c'est un peu trop là,
voilà,
tu vois.
Voilà. Sur, alors c'est pas un spoiler parce que voilà, la structure de Final Fantasy VII est bien connue depuis plus de 20 ans, mais on est à la fin de Cosmo Canyon. Mm. Et c'est marrant parce que t'as l'impression que quand ils ont fait le jeu, ils ont compris que ah, peut-être ils vont fatiguer à ce moment-là, et les mini-jeux commencent à te proposer des modes faciles et des trucs comme ça. C'est oh, tu veux aller un petit peu plus vite, vas-y. Mm-hmm. C'est sur le truc des MOG, il y avait possibilité de le passer en mode facile. Sur,
mais ça y était pas avant.
Je suis pas sûr, ou alors
ouais,
je sais
peut-être
pas.
Peut-être que t'étais pas encore saoulé quoi. Donc
voilà, sur les 12 pages de tuto d'une mini-jeu qui accompagne la dernière proto-relique. Il y a un moment, on fait ah oui, avec ce bouton là, tu vas le passer en mode facile, ça change rien aux récompenses. Je fais ah bah d'accord, mais go
ah,
alors.
Ah, si ça change rien aux récompenses,
let's go. Donc c'est voilà. Mais c'est cool, le jeu est bien fait, le scénario est connu, hein, mais il est toujours aussi sympa. La mise en scène est exceptionnelle, les personnages sont cool, ce qu'ils ont réussi à faire avec le développement de la personnalité de tous ces de toute cette équipe est vraiment vraiment intéressante.
Tout à fait.
Donc c'est vraiment un succès qui est sans aucune mesure avec Remake.
Oui.
Remake vrai. C'était sympa. Remake c'était cool, c'était bien de retrouver cet univers, c'est beaucoup plus joli maintenant, c'est voilà. Le jeu c'est ça va, mais là ils ont tellement tout amélioré, que ce soit le système de combat, la mise en scène, les personnages, voilà. C'est vraiment Final Fantasy VII Rebirth, c'est vraiment un jeu exceptionnel. On s'approche de la fin, on est plus proche de la fin que du début. C'est un jeu qui est très long, mais j'ai hâte de le finir. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le troisième. Il va falloir attendre un
peu. Oui, là,
peu.
Il va falloir attendre un peu. Ouais, mais...
Il va falloir un petit peu de patience pour la suite. Pas mal d'heures passées aussi ces deux dernières semaines sur la version 1.6 de Stardew Valley.
Hein, et oui, quand t'es pas à Marseille.
Et quand je voilà,
quand
je suis
en déplacement professionnel,
tu es
sur Stardew Valley
avec un Steam Deck. bah, je suis sur Stardew Valley, donc j'ai passé pas mal de temps dessus. Là aussi, il y a pas. Alors c'est toujours cool de retrouver Stardew Valley. Hein, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Et c'est vrai. En fait, si tu veux, à la fois je découvre cette version 1.6 avec pas mal de nouveautés, et aussi j'avais jamais vraiment fait à fond la version 1.5 qui avait aussi rajouté beaucoup de choses.
Okay.
Donc j'ai pas mal de trucs à découvrir. Surtout là, j'approche entre guillemets le endgame de Stardew Valley, c'est-à-dire que j'en suis à ma deuxième année sur le calendrier du jeu. Donc ça commence à débloquer pas mal de choses. Tu as à ce stade du jeu, en principe, t'as une ferme qui tourne bien et voilà, tu peux atteindre des trucs que tu peux atteindre qu'en fin de jeu, en principe. C'est des axes de développement qui sont sympas et qui ont, eux, pour le coup, beaucoup de nouveautés. Alors, c'est parfois des détails, tu vois, mais c'est des détails qui rajoutent, qui changent le train-train quotidien, les automatismes que tu as, parce que la structure du jeu est toujours aussi formatée. Hein. Tu as le chrono qui tourne, donc il faut faire un maximum d'activités pendant la journée en gérant le temps et l'énergie que tu as. Mais voilà, avec plus de choses à faire, plus d'options, ça démultiplie les possibilités. Donc c'est intéressant. C'est intéressant et c'est zen.
Ah oui. Quoique moi, Stardew Valley, c'était le jeu qui me stressait le plus. Hein.
Voilà, il y a des fois où je fais pause, je planifie, je fais bon, tu vois, le premier jour
ça
de la...
Ça s'enchaîne trop, en fait.
Ça s'enchaîne et tu dois faire des trucs, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et quand tu progresses d'un côté, tu as l'impression de délaisser d'autres aspects du jeu et vice-versa.
Puis le fait que le chrono s'arrête jamais, quoi, tu vois, du coup...
Bon, tu peux faire des pauses, hein. Moi,
oui,
je fais des pauses pour réfléchir.
Ouais, mais il faut, quoi, parce que c'est pas comme un jeu normal où... Bah, ouais. En plus, moi, ma façon de jouer, perso, c'est... Je laisse la manette, je vais boire un coup. Bon, à l'époque, je m'occupais de Poupy, maintenant, il n'y a plus Poupy, mais bon, voilà. Enfin, je suis pas forcément hyper concentrée sur le jeu tout le temps, donc ouais, du coup, ouais. Un jeu où t'as le chrono qui tourne et il faut rester sur le truc, ça me stresse plus qu'autre chose,
ouais,
en
c'est
fait.
Ça. C'est ça. Mais les jeux en chrono temps réel avec le temps qui passe, alors après il n'y en a pas des tonnes, hein, tu vois. C'est,
non, non, non.
C'est, en gros, c'est Stardew Valley Dead Rising, hein, mais moi j'exagère, mais c'est un petit peu les... les deux exemples qui me viennent en tête. Mais c'est cool, franchement, c'est bien ce qu'il fait. Alors, je sais pas s'il va un petit peu sortir un autre jeu un jour.
Oui, parce qu'il y avait le chocolatier.
Ouais, Haunted Chocolatier, sur lequel il travaille. Mais il est tout seul, donc si tu veux, quand il l'a dit, ouais, finalement, je vais faire un dernier patch pour Stardew Valley. Quand il a commencé à développer le 1.6, voilà, il a mis complètement en pause son autre projet.
Ouais.
Donc voilà. Alors, il est apparemment, il y a une deuxième personne qui l'aide. Mais bon, c'est pas.
C'est bien déjà.
C'est bien, mais tu sens que voilà, il peut pas être au four et au moulin. Déjà, rien que là, pour Stardew Valley 1.6, pour l'instant, c'est un patch qui est disponible sur PC. Les versions console et mobile n'ont pas ce patch parce que voilà, ouais. Voilà, maintenant qu'il est fini en version PC, il commence à travailler sur les autres. Bon, voilà, c'est du boulot.
Ah, tout seul, c'est sûr que.
Tout seul, c'est pas évident. Ouais. Allez, on va passer un petit peu à l'actu parce qu'il s'est passé des trucs en deux semaines, figure-toi. Xbox.
Ah.
Microsoft a annoncé last weekend qu'ils ont mis en place depuis quelques mois une équipe complète dédiée à la préservation des jeux et à la rétrocompatibilité, la compatibilité future.
D'accord.
Vraiment avoir une équipe dédiée à ce travail de faire en sorte que les jeux des générations passées tourne sur la génération actuelle et les générations futures,
mmh.
et réfléchir à l'avance à ce qu'il faut faire pour que les jeux d'aujourd'hui puissent vraiment tourner sur les machines de demain. Et ça, c'est une équipe qui travaille conjointement avec l'équipe qui travaille sur la prochaine génération de consoles, mmh. pour Microsoft et pour Xbox.
Mmh.
C'est la CEO de Xbox, donc c'est Sarah Bond qui a expliqué ça et qui réitère ce qu'elle avait dit il y a quelques semaines à l'époque de quand il parlait de jeux exclusifs Xbox qui allaient sur d'autres consoles. Voilà, il prépare une nouvelle génération qui sera le plus gros saut technique jamais vu d'une génération à l'autre de consoles. Alors.
On verra.
Oui, ok, ok. Madame Bond, c'est très bien de dire ça. On verra. Je veux dire, j'étais là quand on est passé des consoles 16 bits aux consoles 3D. voilà, des sauts techniques, j'en ai vu. Et c'était pas mal. Hein.
Ouais, voilà.
C'était pas mal. Quand soudain on a dit, regarde, les jeux peuvent être en 3D, c'était waouh. C'était, bon, voilà. C'est les générations, les nouvelles générations peuvent pas connaître ça. Hein, mais...
Oui, on est vieux.
On est vieux. Donc, c'est cool. C'est important d'avoir ce type d'initiative et surtout de le faire publiquement. Si on compare ça aux autres constructeurs, Nintendo, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec la Switch 2. Aujourd'hui, on est toujours dans le flou, même s'ils ont fait des insinuations dans tous les sens. On ne sait toujours pas si est-ce que nos jeux actuels sur Switch, est-ce qu'ils vont marcher sur la Switch 2, est-ce
qu'il va être, bon, j'espère qu'on va, quand même.
Est-ce qu'on va être obligé de tout racheter, de machin. C'est pareil pour PlayStation, tu vois. Alors, je pense qu'ils vont dans le bon sens, PlayStation, mais voilà, ils aiment bien aussi ressortir des remasters de jeux PS4.
Ils aiment bien faire du fric sur ton dos, ça, c'est sûr.
Alors, bon, des remasters qui sortaient à plein tarif, c'est devenu au fil de la génération, c'est devenu des patchs. Voilà, il y a eu un gros patch pour The Last of Us 2 récemment, par exemple, qui a été... pas cher, pas gratuit, mais pas cher.
Mm-hmm.
Et il y avait un gros travail qui a été fait sur la nouvelle version du jeu. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que mon catalogue de jeux que j'ai sur PlayStation 5, comment ça va tourner sur PlayStation 6 ? Est-ce que je vais devoir payer 10 balles à chaque fois que je veux jouer un jeu PS5 sur ma PS6 ?
C'est possible.
C'est un petit peu stressant, mais en tout cas, c'est pas mal comme initiative. On attend de voir ce que ça donne. On attend. Après, c'est encore une fois, c'est des promesses. Hein. On l'a dit pour le plus gros saut technique que j'ai jamais vu. C'est ouais. On va voir.
Mm-hmm.
On va voir. Ça serait bien de la part de Microsoft qui a.
Après, on sait que Microsoft est quand même assez engagé sur ce sujet-là. Ils essayent.
À la fois engagé sur ce sujet-là, mais aussi c'est eux qui disent ah ouais, mais on va faire une série X, mais on va aussi faire une série S moins puissante et ça va être la même génération et ça va être un casse-tête pour tous les développeurs, mais c'est leur problème.
Aussi.
Voilà, donc tu vois, il partait un petit peu dans les deux sens. Donc on va voir, on va voir ce que ça donne. Mais on se retrouve, on va reparler de Microsoft un petit peu plus tard, mais ça a des conséquences sur les jeux qui sortent, à la fois les jeux des éditeurs tiers et même les jeux Microsoft qui peinent, à, qui peinent à tourner à plus de 30 FPS sur, sur leur console.
C'est vrai.
Mais à voir. On se dirige, Azin, on se dirige tout doucement vers, vers le mois de juin.
Oui.
Le mois de juin. Alors, il n'y a pas de 3 cette année, hein, on l'a déjà dit, mais oui. C'est...
Il n'y aura plus jamais de 3 même.
Il n'y aura plus jamais de 3, c'est terminé, merci, mort et enterré, mais Jeff Keighley, lui, est immortel. Je ne devrais pas dire ça, hein, s'il se passe...
Non, tu vas encore te faire un...
Pourquoi ? Parce que j'ai dit qu'il était immortel ?
Ben, je ne sais pas. C'était un...
Bref.
Ça insinue qu'il n'est pas humain.
Ce... Summer Game Fest...
Est-ce que Jeff Keighley est un reptilien ?
C'est possible. Donc Summer Game Fest, au mois de juin, on sait que ça va arriver et on sait que tout le monde, tous les éditeurs, en tout cas la plupart des éditeurs vont sans doute faire des trucs un petit peu autour. Ubisoft confirme que le Ubisoft Forward Showcase aura lieu en juin, le 10 juin très exactement. Et donc Ubisoft va en profiter pour montrer un petit peu tous ses projets actuels. Mmh. Alors, c'est quoi les projets actuels ? Bonne question.
Assassin's Creed Red ?
Tout à fait. Assassin's Creed Red, qui selon les rumeurs actuelles devrait sortir cette année, donc il serait temps de commencer à en parler. Star Wars Outlaws, ouais, tout à fait. On sait aussi qu'ils travaillent sur un remake, remaster, reboot, on ne sait pas trop, de Splinter Cell.
Ah oui.
Hein, ça fait longtemps qu'ils en parlent, ils ne l'ont jamais montré. Peut-être un petit teaser de ça. Et d'autres plus petits projets autour. Hein, peut-être un projet Prince of Persia. On en reparle tout à l'heure de Prince of Persia, mais il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si c'est déclenché par le succès de The Lost Crown là, en janvier, mais il se passe pas mal de choses autour de Prince of Persia. Il y a aussi ce remake de Sands of Time qu'on attend.
Oui, voilà, ouais.
Qui a été rebooté 50 fois, mais il devrait revenir. Hein, il est officiellement toujours en développement. Et aussi des jeux comme Beyond Good and Evil 2. Pardon, c'était une petite blague.
C'était la blague.
Des bisous, Ubisoft. Mois de juin également, il y a pas mal de rumeurs qui autour d'un showcase de Xbox.
Ouais.
Alors, en gros, on sait qu'il va y avoir un showcase de Xbox. Ils ont mentionné leur showcase annuel. Ça, on sait qu'il va arriver. On n'a pas de date exacte encore pour ce showcase. Mais d'après des rumeurs confirmées par le site The Verge, Microsoft révélera... Déjà, le showcase aurait lieu le dimanche 9 juin, la veille d'Ubisoft.
Ouais.
Ça, c'est la rumeur. Okay. Hein, la date n'est pas confirmée officiellement.
Mais la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest, c'est
le 7.
Putain, ils vont tout enchaîner. Ils font chier. Hein.
Bah, c'est ce qu'ils font d'habitude. Hein, c'est... voilà. Le Summer Game Fest, le Jeff Keighley Show, c'est le...
Jeff Keighley Show, ça s'appelle pas comme ça en vrai.
ça serait beaucoup mieux. Ça sera dans la soirée du vendredi 7.
Le Jeff Keighley Muppet Show.
C'est ça. c'est le vendredi 7 juillet dans la soirée, heure de chez nous. Donc le 9, 7, 8, 9, c'est le dimanche, ça serait Xbox au conditionnel, ça c'est la rumeur de The Verge. Mais surtout la rumeur de The Verge, c'est que en plus des projets qu'on connaît déjà, Microsoft dévoilera lors de ce truc un nouveau Gears of War.
Ah.
Qui serait donc Gears 6. On rappelle que le nom officiel de la série maintenant c'est Gears tout court, c'est plus Gears of War. J'ai jamais compris pourquoi.
Bah après, ils vont peut-être changer.
Voilà, donc ça va être au milieu de tous les trucs qu'on sait. Hein. Flight Simulator 2024, Avowed, Indiana Jones, et bien entendu des trucs comme Call of Duty, puisque maintenant, c'est du Microsoft.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui, si vous voulez des infos sur le nouveau Call of Duty, bah, ça va être là qu'on va en parler.
Tiens, au fait, Diablo est sorti sur...
Diablo est disponible sur le Game Pass. Ouais, ça y est, ça s'est fait. Le premier jeu Activision Blizzard disponible sur le Game Pass, Diablo 4, est maintenant disponible. Il y a une petite manip à faire pour lier ton compte Battle.net à ton compte Microsoft.
Ouais.
Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Si vous voulez jouer à Diablo sur le Game Pass, c'est maintenant tout à fait possible.
Ok.
Voilà, donc rendez-vous cet été pour tout ça.
Peut-être aussi des nouvelles de, des jeux Blizzard qui vont arriver.
Voilà, qu'est-ce qu'ils font de ce catalogue?
Parce
qu'est-ce
que Diablo, ok, mais il y en a d'autres, quoi.
Il y en a d'autres. Hein.
Quand
il y en a
que...
d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vont atterrir sur le Game Pass à un moment donné? Il serait temps de commencer à en parler, non?
C'est
sûr et certain. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y aura du Nintendo? Est-ce qu'il y aura du Sony? Alors, Sony, d'après ce qu'on sait, ils préparent aussi. Alors, un showcase, un state of play, un machin, je sais pas comment ils vont appeler ça, mais ils vont prévoir quelque chose un petit peu plus tôt. A priori, eux, c'est pour le mois de mai que c'est prévu. On sait pas trop ce qu'il y aura dedans. Sony, eux, ils ont déjà dit qu'il y aurait pas de gros jeux dans leur grosse franchise qui sortirait en 2024. Et quand je dis 2024, c'est jusqu'au 31 mars 2025. Ça veut pas dire qu'on peut pas commencer à parler de ce qui vient après. Hein, qu'on peut pas commencer à teaser des jeux qui vont sortir en 2025, donc il peut y avoir des choses à montrer. Et il peut aussi y avoir des plus petits projets pour cette année, donc il y a aussi, là aussi, des rumeurs qui vont dans ce sens-là, sur peut-être un jeu dans l'univers de Astro.
Ah oui, c'est vrai.
Il y a aussi peut-être des nouvelles d'une PlayStation 5 Pro qui a priori serait en développement, donc peut-être qu'ils vont en parler à ce moment-là. Nintendo, on sait qu'ils ont retardé un petit peu toute la machine Switch 2, donc est-ce qu'ils seront là? Je pense qu'ils seront là, hein. Il faut quand même qu'ils commencent à dire, si on n'a pas de Switch 2 à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des jeux à sortir? Donc commencer à en parler, parce que je pense pas qu'ils vont laisser leur catalogue complètement vide pour les fêtes de fin d'année. Il va falloir trouver quelque chose à sortir. Et ils ont toujours des... Nintendo, ils ont toujours des trucs derrière les fagots. Ils ont des jeux qui sont prêts, qui sont développés à l'avance, qui sont mis dans un coin pour les mauvais jours.
Ouais.
Et il serait temps de voilà. On sait qu'il y a un remake d'un ancien Fire Emblem qui est a priori qui est fait, qui est développé, qui est terminé. Ça fait aussi pas mal de temps qu'on a des rumeurs sur un portage de vieux Zelda comme Wind Waker, comme Twilight Princess qui pourrait arriver. Sur Switch, donc voilà, ça c'est des choses peut-être qui peuvent être annoncées bientôt, mais ça va être plutôt pour Nintendo, tout 2024 a l'air d'être sous le signe du remake, du portage. Là on a Paper Mario, la porte millénaire qui arrive bientôt, on a Luigi Mansion 2 qui arrive bientôt, tout ça c'est des portages, c'est du vieux catalogue, mais bon, ça fait vendre des jeux et ça occupe un petit peu, quoi. Et c'est des bons jeux, donc c'est cool qu'ils soient accessibles, c'est plutôt une bonne nouvelle. On retourne dans les mauvaises nouvelles et les sujets un petit peu chiants. Grosse investigation de Rebecca Valentine chez IGN US sur le studio Deck Nine, développeur du dernier Life is Strange, avec des informations d'une culture un petit peu toxique à l'intérieur du studio et surtout une inaction des responsables du studio et de l'éditeur qui est, je le rappelle, Square Enix. Voilà. Donc Deck Nine, on rappelle, c'est eux qui ont repris le développement de la franchise Life is Strange.
Life is Strange True Colors.
Voilà, c'est des choses qui se sont passées pendant le développement de Life is Strange True Colors.
D'accord.
Un True Colors en particulier qui avait été remarqué pour justement tout ce qui était diversité, inclusivité.
Oui, c'est bizarre, ça va pas avec les thèmes du jeu, quoi.
Et c'est ça, et visiblement, le jeu qui était très réussi a été le fruit de pas mal de tensions internes. Avec des gens haut placés dans le studio qui avaient des problèmes de toxicité, de harcèlement, des problèmes de crunch, de manière générale, un leadership un peu abusif et une inaction des responsables du studio dans ces trucs-là. Il y a des plaintes en particulier contre l'ancien, il n'y est plus, hein, l'ancien responsable, le chief creative officer, Zach Garris, qui avait pour habitude de dépasser un petit peu les bornes, de se défouler un petit peu ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il y a eu des modifications qui ont été faites par le studio sur les personnages de Life is Strange. Hein. Il y a eu la suppression d'un personnage qui était transgenre, qui a été supprimé au dernier moment.
Ah bon ?
Ce genre de choses. Voilà, des modifications sur le script. Après, voilà, tu peux jamais savoir les motivations. Un script, ça se modifie à pendant le développement, c'est normal, mais...
Oui, parce qu'après... bon, après, je sais pas si c'est ça, attention, hein, mais parfois, en voulant être trop inclusif, tu mets des personnages qui, finalement, ont pas
voilà, attention,
place.
Il faut doser les choses.
Donc, justement, quoi. Être inclusif, ça veut aussi dire rendre compte de la réalité de...
Ouais, et pas non plus forcer le truc, tu vois.
De ces minorités et de ce qu'ils vivent, etc. Voilà. Et pas forcer le truc sur quelque chose qui,
voilà.
qui va...
Parce que on parlait tout à l'heure des groupes qui luttent contre ça, et leur argument, c'est, attention, quand c'est forcé, ça va pas. Et là, sur le coup, il faut pas non plus que ça soit forcé.
Non, faut pas que ce soit forcé.
Faut pas non plus que ça soit forcé. Il faut que ça reste naturel. Mais voilà. C'est pour ça que c'est le genre de choses. C'est difficile de naviguer là-dedans et de rester, d'avoir un petit peu la main légère. Il y avait pas non plus beaucoup de soutien donc de l'éditeur, hein, qui est Square Enix, qui dans la promo du jeu. Avait donné pour consigne spécifiquement de surtout pas révéler que la protagoniste du jeu était bisexuelle parce qu'il voulait pas que le jeu soit connu pour ça.
D'accord.
Donc voilà, c'est le jeu est finalement sorti et le résultat est plutôt cool, mais les circonstances de son développement ont été compliquées.
Ouais, c'est dommage.
C'est dommage, mais voilà, c'est des choses qui arrivent à tous les niveaux, hein, visiblement.
Ouais, mais il faut pas que ça arrive, quoi.
Non, voilà. Non. Non, non, mais voilà, une direction toxique, c'est toujours un problème dans les environnements de travail, dans le jeu vidéo, et même s'il y a des améliorations. Alors c'est marrant, parce qu'il y a des studios qui s'améliorent dans un sens, et qui font, voilà, c'est deux pas en avant, trois pas en arrière. Ceux qui ont été reconnus comme très proactifs là-dedans, ça a été Rockstar, suite à toutes les critiques de Crunch qu'il y a eu autour des derniers mois de développement de Red Dead Redemption 2. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer un petit peu la situation. Et là, maintenant qu'ils sont en mode panique parce qu'il faut finir GTA 6, ils ont l'air de retourner un petit peu sur les mauvaises habitudes, forcer tout le monde à rentrer au bureau. On en a parlé, hein, le retour au bureau des employés à qui on avait promis de pouvoir travailler à distance, c'est compliqué et ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et je suis pas certain qu'insérer des tensions comme ça dans une équipe de développement, c'est ça qui va faire accélérer le travail et qui va améliorer la qualité d'un jeu comme GTA 6 et les derniers mois de développement. On va parler un petit peu statistiques. Il y a une étude intéressante qui a été faite par Newzoo.
Je suis retenu de faire une blague là, mais...
Newzoo fait des études sur les...
Newzoo
Newzoo, le... Ouais,
Newzoo, là.
Newzoo.
Newzoo.
C'est le nouveau zoo.
Ah, Newzoo.
Newzoo, oui. Newzoo, écoute, ça s'écrit Newzoo. Ça s'appelle Newzoo, je sais pas. Hein. Je connaissais pas ces gens-là, figure-toi. Mais en tout cas, leur étude est intéressante. C'est une étude annuelle, c'est la deuxième année qu'ils font ça, sur les habitudes de jeu des joueurs sur PC et sur console. Pour 2023, il s'avère que 60% du temps de jeu passé sur les jeux vidéo en 2023 était sur des jeux âgés de 6 ans et plus.
Ah!
En gros, 60% des joueurs et du temps de jeu se fait sur des vieux jeux.
Ben ouais.
Et les nouveaux jeux, les nouveautés ne seraient que... Alors, nouveautés, c'est donc moins de 5 ans. Mm-hmm. C'est une nouveauté
oui, déjà,
large.
Ouais.
Ce n'est que 40% du temps de jeu des joueurs. Alors...
Du coup, encore moins, logiquement, sur des jeux qui viennent de sortir. Quoi.
Exactement. Exactement. Les nouvelles sorties, là encore, les nouvelles sorties, c'est moins de 3 ans, donc on est encore large, c'est 23%. Mmh. 23%. Alors, quand tu vas voir c'est quoi ces vieux jeux auxquels les gens jouent, les usual suspects, hein, on les connaît, hein, c'est Fortnite, c'est Roblox, c'est League of Legends, c'est Minecraft, c'est GTA V. Voilà, ça c'est les monstres qui font le plus gros du temps de jeu. Et voilà, après c'est une étude factuelle, c'est intéressant de voir ces habitudes là et c'est parce que ça permet de mettre un petit peu en contexte le développement des jeux actuels, pourquoi tout le monde cherche à faire des jeux services, pourquoi tout le monde cherche à faire
oui,
des
parce
jeux
que concrètement,
qui vont être joués
quand ça
longtemps.
Match
parce que quand ça marche quand ça marche, c'est...
C'est jackpot, quoi.
C'est un petit peu ça.
Mais le problème, c'est que actuellement, il y en a qui sont en place depuis tellement longtemps que pour les déloger... Enfin, je veux dire, les jeux services qu'il y a actuellement, c'est quand même des trucs qui sont là depuis des années. Hein,
des années, bah voilà, c'est ça. Quand on dit plus de 6 ans, c'est, mais pour certains, c'est beaucoup plus que ça, quoi.
Hein. Bien sûr, hein, donc bon, bah, bonne chance. Hein.
Voilà, alors bonne chance, et surtout, surtout pour ces jeux-là qui ont été une source de revenus sûre pour les studios en question pendant longtemps, c'est des jeux qui sont soit en les, qui vont être un jour en déclin. C'est des... Voilà, on l'a dit, la courbe de Fortin n'était pas aussi impressionnante qu'elle l'a été à une époque. GTA V, on commence à réfléchir à transitionner vers un GTA VI. C'est des transitions qui vont être délicates. Et qui, si c'est des transitions qui ne sont pas bien faites, qui vont être catastrophiques pour les studios concernés. Quoi.
C'est sûr.
Allez, un petit peu de shopping. Take-Two, éditeur de jeux comme GTA 5 et GTA 6. Take-Two a fait l'acquisition de Gearbox auprès de Embracer.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Alors, bon, c'est des news qui commencent à avoir. Hein, comme dit, on n'a pas fait d'épisode la semaine dernière.
Oui, on rattrape
un petit peu le truc. Hein, mais donc, Embracer a vendu le studio développeur de Borderlands à Take-Two pour la somme de 460 millions de dollars. Qu'est-ce que Take-Two achète? Parce que voilà, c'est compliqué de Take-Two, c'est Take-Two, pardon. Gearbox, c'est quand même une grosse machine avec des studios de développement, avec un éditeur, avec plein de choses. Qu'est-ce qui a été vendu? Take-Two désormais possède le studio Gearbox Software, basé à Frisco au Texas, développeur de Borderlands. Le studio Gearbox Montréal, le studio Gearbox Québec, les franchises Borderlands, Tiny Tina's Wonderlands, mais également les franchises Homeworld, Risk of Rain, Brother in Arms et Duke Nukem. Ça veut dire, qu'est-ce qui reste chez Embracer? Embracer conserve la branche d'édition Gearbox Publishing, qui évidemment va changer de nom, Gearbox Publishing San Francisco. Qui a les droits d'édition de jeux comme la franchise Remnant, Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker qui va sortir bientôt. Embracer conserve également les studios Cryptic, développeurs de MMO comme Neverwinter Online et Star Trek Online, Lost Boys Interactives, Capture Dimension, et voilà. Donc c'est un petit peu un partage du truc. Mais voilà, en gros, les plus gros morceaux, ça va être quand même Borderlands, et ça revient à Take-Two. Donc ça veut dire les jeux vidéo, mais ça veut dire aussi le film qui doit sortir.
Oui, il y a un film.
Il y a un film avec Cate Blanchett et Jack Black.
Avec que des gens au-dessus de 50 ans.
C'est ça. C'est encore un autre sujet, quoi. alors les conséquences, c'est bien entendu une vague de licenciements chez Gearbox, hein, parce que il faut réorganiser, il faut faire le ménage là-dedans. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et on espère que ça va s'arrêter là et que Gearbox va pouvoir se développer sous ce nouvel éditeur. Après, voilà, Take-Two, c'est un éditeur qui est habitué aux grosses licences et aux gros développeurs. Hein, c'est comme dit, quand même, c'est les gens qui sont derrière Rockstar. Donc voilà, on va voir ce que ça donne.
Oui, après ça devrait aller, hein, mais c'est vrai que la transition, ça va être encore une fois des licenciements.
Ça va être encore des licenciements, hein. C'est également des licenciements chez Sega, de côté de Sega, encore une vague de licenciements. Là, c'est 240 personnes qui sont remerciées chez Sega, majoritairement dans le studio Creative Assembly. Développeur de la franchise Total War, mais également développeur du jeu récemment annulé Yenaz.
Ah oui, oui. Ah ben oui.
C'est un bon exemple de mauvaise gestion de pas comprendre les studios que tu as.
C'est ça.
Et c'est dommage. Creative Assembly, ils sont spécialisés dans les jeux PC. Hein, ils ont fait Total War, qui est une série de jeux PC à grand succès. Hein, attention, c'est pas des jeux très grand public, mais en tout cas, c'est des jeux qui ont un public assez assez fidèles. Mm-hmm. Et ça a été une rentrée d'argent sûre pour Sega pendant très longtemps. Quand Creative Assembly a voulu faire un petit peu autre chose, ça a été du Alien Isolation qui était vraiment excellent.
C'était pas mal, ouais.
Et donc, quand Sega les force à faire un jeu service derrière, ben ça fonctionne pas.
Bizarrement. Hein,
parce que c'est pas ce que fait ce genre de studio, ils savent pas faire, et donc ça marche pas. La conséquence, c'est 240 personnes qui sont remerciées. Alors, pas tous chez Creative Assembly, hein, puisque les studios européens, de manière générale, sont touchés. La plupart des... Il y a aussi les studios de Lead, de la branche édition, chez Sega Europe, qui sont touchés. Et également le développeur de la franchise Company of Heroes, Relic Entertainment, eux, ils ont été revendus.
D'accord.
Ils passent, Relic passe indépendant. Et effet domino, suite à cette vente de Relic, il y a également eu des licenciements d'environ une quarantaine de personnes, a priori, d'après ce qu'on sait, chez Relic.
D'accord.
Voilà, donc ces réorganisations, on l'a dit, on le redit, ça va être un thème toute l'année. Hein, mmh. On s'adapte à un marché qui est changeant.
Ouais.
Et voilà, et ça, on va enchaîner malheureusement les mauvaises nouvelles. On reste un petit peu dans le même contexte. Hein, on se rappelle que, par exemple, le studio Toys for Bob, il y a quelques semaines, avait récupéré son indépendance auprès d'Activision et donc de Microsoft, juste après le rachat. Mmh. Et ce qu'on avait dit à l'époque, c'est que Toys for Bob, par contre, ça leur donnait l'opportunité de continuer à faire les jeux dans le style qu'ils avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire des plateformers en 3D plutôt cool, hein, et potentiellement pour continuer à travailler pour Microsoft, mais indépendamment avec des accords entre les deux boîtes. Visiblement, c'est ça qui va se passer, parce que d'après des fuites qu'on a, le prochain projet indépendant de Toys for Bob, c'est un quatrième épisode de Spyro.
D'accord.
Spyro le dragon, et donc c'est un jeu qui sera développé pour Microsoft, puisque la licence Spyro appartient toujours, d'après ce que je sais, parce que je commence à m'emmêler les pinceaux avec le truc là, mais d'après ce que je sais, la licence appartient toujours à Activision.
D'accord.
Mais c'est cool parce que c'est cool parce qu'ils font des super jeux, des plateformers 3D. Ils sont très forts là-dedans. Hein. C'est eux qui avaient fait il y a 2 ans, 3 ans. Temps passe trop vite. Le dernier Crash Bandicoot qui était vraiment cool.
Oui.
Et donc voilà, un nouveau Spyro. Ça fait longtemps qu'on attend ça. Et c'est plutôt cool. On parlait de Prince of Persia tout à l'heure. Je continue à faire mon actu. On parlait de Prince of Persia tout à l'heure. Prince of Persia, un nouveau jeu serait en développement dans l'univers de Prince of Persia. Alors là aussi, on prend à contre-pied ce que fait la licence d'habitude. C'est un jeu qui serait un roguelike.
Comme Prince of Persia, donc ? Enfin, comme le nouveau ?
Non, le nouveau, c'est un Metroidvania. On va pas mélanger les trucs. Là, c'est vraiment plutôt un roguelike. Pour te donner
oui,
un...
c'est vrai, c'est
voilà.
Un Metroidvania. Ouais.
En gros, c'est un jeu, ça s'appellerait The Rogue Prince of Persia, et c'est développé, figure-toi, par Evil Empire, le développeur de Dead Cells.
D'accord. Ouais.
Voilà. Donc c'est Ubisoft qui travaillerait en accord avec Evil Empire, le développeur de Dead Cells, pour un Prince of Persia roguelike qui sortirait quelque part cette année, en 2024, en early access, hein, sur un modèle de développement qui ressemble à ce qu'ils avaient fait pour Dead Cells.
Mais donc du coup c'est quelque chose qui ressemblerait un peu au Prince of Persia qu'on a eu récemment, parce que Dead Cells c'est vu de côté.
Alors on sait pas du tout à quoi va ressembler le jeu, on n'a pas vu d'image, hein, mais c'est vrai que c'est une bonne supposition. On devrait en apprendre plus très bientôt. Cette semaine, j'ai plus la date en tête, mais cette semaine en principe il y a un showcase très orienté sur des jeux indépendants. Et Evil Empire devrait montrer quelque chose à ce showcase, on le sait.
D'accord.
Donc est-ce que c'est ça, est-ce qu'on va le voir, ça peut être intéressant. En tout cas voilà, c'est très différent de ce que fait Ubisoft, à la fois sur le style de jeu, sur le partenariat avec d'autres studios, également sur le fait de publier des jeux sur Steam. C'est pas trop ce qu'ils font en ce moment, mais pourquoi pas. En tout cas c'est intéressant. Et enfin, on va terminer cet épisode avec un poisson d'avril.
Ah !
Qui n'est pas un poisson d'avril.
On est trop tard là.
Ouais, c'est trop tard. Non, mais voilà, 1er avril, la semaine dernière.
On a raté le 1er avril.
Non, mais c'était une blague. Hollow Knight Silksong est apparu sur les bases de données du store Xbox.
D'accord.
Donc le jeu a enfin une page sur le store Xbox avec la possibilité de précommander le jeu. Mm-hmm. Alors ils ont sorti ça le 1er avril, donc tout le monde s'est dit c'est une blague. Alors en fait non, c'est pas une blague. Hein, la page est toujours là, c'est un vrai truc. Alors c'est pas vraiment des vraies infos sur le jeu, on sait toujours pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y a du mouvement. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a eu pendant presque un an sur Silksong. On a enfin un petit peu de mouvement, un signe de vie.
On dirait nous quand pour vendre la maison, quoi. Ouais, c'est pareil.
Voilà,
y a du mouvement.
Il se passe un truc, sans doute rien, mais il se passe un truc. Non, voilà, il y a pas mal de gens chez Microsoft qui ont retweeté le truc, qui ont mis le truc en avant. Ils essayent d'en faire quelque chose de gros. Il faut savoir que Silksong avait déjà une page sur les stores PlayStation et Switch.
Donc ça change pas grand chose.
Ça change pas grand chose, mais on rappelle que c'est un jeu qui est prévu pour sortir sur le Game Pass Day One, donc il y a quand même un lien avec Microsoft qui est assez fort.
C'est vrai.
Il est possible qu'on en entende parler bientôt.
D'accord.
Je dirais pas très bientôt. Il y a un showcase de jeux indépendants qui arrive cette semaine. Ça serait cool, mais je pense que Silksong est plus gros que ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose que Microsoft peut garder pour son showcase de juin.
Sûrement, ouais.
Mais en tout cas, voilà, le jeu devait sortir l'année dernière. On peut pas être loin, c'est pas possible, quoi. C'est ça, forcément, ça approche. Allez, un petit agenda des sorties pour finir cet épisode.
Bah ouais.
C'est parti. Pas énormément de sorties cette semaine, hein, comme dit, c'est calme en ce début de mois d'avril, hein, ça va reprendre un petit peu sur la deuxième moitié du mois.
C'est pas plus mal.
C'est pas plus mal, mais il y a quand même un jeu que j'ai repéré, ça sort sur Steam, sur PC, chez Devolver, ça s'appelle Children of the Sun, ça sort demain mardi. Et c'est un jeu qu'on va qualifier de jeu de puzzle sniper.
Puzzle sniper, c'est-à-dire.
D'après ce que j'ai compris en regardant un petit peu de gameplay, en regardant un petit peu les trailers, tu joues un sniper, une snipeuse.
Est-ce qu'elle est à poil ?
Non. Au contraire, elle est très bizarre. Ça a l'air d'être une histoire de secte. Et tu dois sniper des gens, mais dans un truc puzzle, tu vois, pour faire vraiment calculer le tir parfait, le machin, pour choper toutes tes cibles d'un coup.
D'accord.
Mais c'est voilà, le style visuel, l'ambiance a l'air assez unique. Et la démo avait fait pas mal de bruit quand elle était sortie le mois dernier. La démo qu'on n'a pas testée, mais voilà, c'est intriguant. Children of the Sun, on va sans doute aller voir à quoi ça ressemble. On va quand même aussi faire un tour du côté de ce qui sort sur le PlayStation Plus et le Game Pass, vu que les sorties sont un petit peu light. Parce qu'il y a des trucs intéressants qui arrivent sur les deux catalogues. Sur le PlayStation Plus, le 23 avril, c'est un petit peu plus tard. Hein, c'est le 23 avril, on a Tales of Kenzera Zao qui sort. Alors ça, c'est le Metroidvania. Pour le coup, c'est un Metroidvania. C'est le projet
de Bayek.
Voilà, du doubleur de Bayek.
Ouais, okay.
Aboubakar Salim, qui était le doubleur, la voix anglaise de Bayek dans Assassin's Creed Origins, qui travaille sur un jeu vidéo, sur son premier jeu, qui est un Metroidvania, qui visuellement rappelle un petit peu Prince of Persia, The Lost Crown,
oui.
Hein, et qui a l'air vraiment excellent.
Ouais, on l'a vu il n'y a pas très longtemps.
On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Il a été montré à pas mal d'événements ces derniers mois, et ça a l'air vraiment cool.
Ouais, et comme dit, ça va traiter de culture africaine.
Voilà, exactement, donc c'est intéressant.
Qu'on ne connaît pas et qui n'est pas beaucoup traité dans les jeux vidéo, donc c'est super cool. Quoi.
C'est super cool, c'est intéressant. Et très accessible, du coup, puisque le jeu est sur le catalogue Extra et Premium du PlayStation Plus le 23 avril, le jour de sa sortie.
D'accord.
Également sur le PlayStation Plus le 16 avril, la semaine prochaine. Ça, c'est un coup de cœur de l'année dernière qu'on avait eu, c'est Dev the Diver qui arrive sur le PlayStation Plus. Donc si vous n'avez jamais tester Dave the Diver, c'est l'occasion. Voilà, ça c'est ce qu'on avait retenu sur le PS Plus. Sur le Game Pass, il se passe aussi des trucs plutôt cool ce mois-ci. Bon, il y a Shadow of the Tomb Raider qui est pas forcément le meilleur de la nouvelle trilogie Tomb Raider.
Non, mais par exemple, sur le sujet qu'on avait au début, le personnage de Lara Croft...
était problématique.
Non.
Alors, le côté...
L'ancien, oui, le nouveau, non. Le nouveau est très très bien.
Ouais, moi j'avais des problèmes, alors pas sur sa sexualisation ou des trucs comme ça, parce que c'était plutôt cool, mais dans Shadow of the Tomb Raider, il y avait un problème scénaristique de manque de respect envers les œuvres d'art, les trucs historiques qu'elle était censée protéger. C'était vraiment, elle avait plutôt tendance à tout péter, et tout ce qu'elle touchait finissait par se casser la gueule. C'était un peu bizarre comme ton.
Mais le principe de Tomb Raider, de tout péter.
Et voilà, c'est ça, il n'y avait pas trop de respect pour... Mais oui, non, tout à fait.
Ouais, non, mais ça bon, va...
Bref, Shadow of the Tomb Raider, 11 hein avril. Non, moi, ce que j'ai retenu...
C'est pas mal, voilà.
Ce que j'ai retenu, c'est surtout Harold Alibot, qui est un jeu en stop motion.
Ah non, ça me stresse.
Ça te stresse. Non, mais visuellement, c'est vraiment très, très très unique.
Ça
c'est
me faisait
très
peur,
bizarre.
Ça, quand j'étais petite.
Ça a l'air très, très cool. Ça sort le 16 avril sur le Game Pass. Ça sort le 16 avril tout court.
D'accord.
Et ça sera disponible dès le premier jour sur le Game Pass.
Bah, allez, go.
Et ça, il est possible que ça soit un véritable bijou.
En tout cas, au moins, c'est original, quoi.
Voilà, c'est à surveiller. Donc voilà, je rappelle les dates. 16 avril pour Harold Alibot, Game Pass et Dave the Diver, PlayStation Plus. 3 avril pour Tales of Kenzera Zao sur PlayStation Plus. Voilà.
Ok.
Voilà un petit peu de quoi tenir en ce mois d'avril. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous fait tout plein de bisous.
Pas à tous, mais...
On vous fait à tous tout plein de bisous. On est là pour répandre l'amour et la tolérance dans le monde entier. Et on vous dit à la semaine prochaine.
On répand l'amour et la tolérance. Des bisous à tous et même à ceux qui ne le méritent pas.
Voilà, c'est ça. À plus.